L'amour, c'est le grand mot de la prédication chrétienne. On sait bien que Jésus nous dit qu'il faut aimer et que finalement l'évangile se résume à cette seule et simple chose, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais pourtant, ce n'est pas si simple, parce que dans le fond, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et en particulier, aujourd'hui, on se dit que c'est quand même assez difficile, parce qu'on ne peut pas se forcer à aimer. Et quand Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis, eh bien, je suis désolé, quand il y a des gens que je trouve antipathiques, je les trouve antipathiques. On ne peut pas forcer le sentiment. Ça montre évidemment que l'amour dont il est question dans la Bible n'est pas de l'ordre du sentiment, c'est pas de l'ordre de la sympathie, c'est même pas non plus de l'ordre de la passion amoureuse. Une fois, j'ai des paroissiens qui s'étaient mariés et ils avaient refusé de promettre de s'aimer l'un l'autre au mariage, parce qu'ils disaient « je ne peux pas promettre que dans 10 ans, j'aimerai encore ma femme ». Et en fait, c'était un contresens, bien sûr, parce que l'amour chrétien dont il est question n'est pas de l'ordre du sentiment, c'est de l'ordre de la démarche, de l'attitude, d'une manière d'être par rapport à l'autre, et qui dépend, je dirais tout à fait, je crois, de notre volonté, en quelque sorte. Alors de quoi s'agit-il exactement? La grande clé de la question, évidemment, se trouve dans cette parabole du bon samaritain, dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et effectivement, on présente le bon samaritain comme un exemple d'amour, et cela depuis l'école biblique. Et même si ça semble un peu moralisateur, dans le fond, ça n'est pas entièrement faux. Il est vrai que le bon samaritain se préoccupe de l'autre, je dirais sans a priori, sans préjugés, sans tenir compte du fait que normalement ils sont ennemis et les samaritains ne supportent pas les juifs et réciproquement. Il s'ouvre, je dirais, à l'humanité de l'autre, par-delà les barrières, il accueille l'autre comme un sujet souffrant, il compatit et il agit. Bon, ben ça c'est de l'amour, voilà, c'est très simple. Et même, on peut aller un peu plus loin, en voyant que c'est tellement de l'amour qu'il n'en profite même pas pour lui imposer quoi que ce soit. Le bon samaritain n'en profite pas pour se dire « Ah, j'espère qu'il sera reconnaissant ou que ça me fera un ami ». Il n'en profite pas pour l'évangéliser, pour lui dire les bonnes paroles, pour lui expliquer qu'il ferait mieux d'arrêter d'être samaritain, etc. Il voit quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il l'aide, point. Il ne lui fait pas la morale, ni rien d'autre. Il ne cherche pas à le transformer, ni à le changer. Il le prend comme il est, et il a besoin d'aide, il l'aide. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire à son ennemi. Et même, il le laisse tellement libre, je dirais, qu'il n'en profite même pas pour mettre la main dessus. On voit dans le texte qu'il le confie à l'aubergiste, c'est-à-dire qu'il sait même se détacher de sa bonne œuvre, ce qui n'est pas évident. Vous savez aussi que par-delà cet aspect un peu simple que vous connaissez, sur lequel je ne m'étendrai pas parce qu'il est trop évident, vous savez donc que cette parabole a aussi une autre entrée, parce qu'elle répond à la question du juriste qui dit « D'accord, je dois aimer mon prochain, mais qui est mon prochain » C'est-à-dire, qui est celui que je dois aimer? Et à la fin de l'histoire, Jésus renverse la parabole et il dit non pas « Qui a aimé son prochain comme son frère dans cette affaire ?» Réponse, le Samaritain. Mais il dit « Qui a été le prochain du blessé ?» Et donc, il met la parabole à l'envers et il dit « Qui est le prochain du blessé ?» Autrement dit, qu'est-ce qu'aimer son prochain? C'est d'être comme le blessé par rapport au sauveteur. Et par conséquent, c'est le blessé qui doit aimer le sauveteur, alors que nous, on l'a toujours lu à l'envers en disant « La parabole du Samaritain est un exemple du sauveteur qui aime son blessé. » Donc Jésus met la parabole à l'envers. Et ça, c'est déjà plus intéressant. Parce que cela veut dire donc que aimer, ce n'est pas forcément bombarder quelqu'un de bonnes œuvres, ce n'est pas forcément faire du social. Aimer, ce n'est pas forcément, donner, sauver, se présenter comme le Messie et le Sauveur du monde. Mais aimer quelqu'un, c'est peut-être aussi se mettre dans la peau du blessé, c'est-à-dire c'est un autre aspect, je dirais, de l'amour. Et ça, c'est très important, parce que ça montre que l'amour, ce n'est pas forcément seulement faire quelque chose pour quelqu'un, mais l'amour, c'est peut-être, et même avant tout, une façon de se positionner par rapport à l'autre. Et ça, c'est très essentiel, parce que beaucoup de gens croient que pour aimer quelqu'un, il faut faire beaucoup de choses, il faut donner beaucoup de cadeaux, il faut faire. Mais parfois, on ne peut rien faire, et néanmoins, on peut aimer. Il y a de l'amour dans la reconnaissance. Il y a de l'amour dans le fait de laisser l'autre agir, de le laisser sujet, de le laisser gouverner la situation, je dirais. Il y a de l'amour à s'offrir à l'autre, même d'une façon passive, à s'offrir à l'action de l'autre. Il y a de l'amour à faire confiance à l'autre et à accepter que l'autre puisse agir pour soi. Et c'est même peut-être encore plus grand, parce que dans cet amour-là, on reçoit l'autre comme quelqu'un qui agit, comme quelqu'un qui est un sujet. Et c'est finalement plus difficile, je crois, plus difficile d'accepter que l'autre vous parle, que l'autre agisse pour vous, même s'il agit mal, que l'autre puisse être un acteur, plutôt que de passer et de donner 2 euros à un SDF sans le regarder. Ça, c'est très facile. Et donc, il y a là quelque chose, je crois, d'important. Accepter que l'autre soit un sujet, que l'autre, reconnaître dans l'autre un « je » qui agit. Et que donc l'autre n'est pas simplement un objet que je bombarde de bonnes œuvres, mais que je le reconnaisse dans sa personne agissante. Et je pense que c'est ça, le sens même, vous savez, de ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire autant que tu t'aimes toi-même. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu te considères un sujet qui agit. Et donc je reconnais que de là-bas, chez l'autre qui est en face de moi, il y a aussi quelqu'un qui peut dire « je », quelqu'un qui peut avoir un goût, un avis, une idée, une identité, qui forcément n'est pas la mienne. C'est-à-dire que je reconnais l'autre comme un autre moi-même en face de qui je me trouve, c'est-à-dire que aimer l'autre, c'est accueillir l'autre comme un sujet. Ce qui est vrai, c'est que dans les deux cas de cette parabole du bon samaritain, il y a une gratuité. Aucun des deux n'attend quoi que ce soit de l'autre. Le samaritain n'attend rien du blessé, et le blessé n'a rien demandé au samaritain. Il y a une gratuité, une spontanéité présente dans les deux cas, et donc je pense que les deux représentent finalement une facette de l'amour. J'ai déjà prêché sur cette parabole en détail et je ne veux pas le refaire là. À ce moment-là, j'avais envisagé qu'en fait, il y avait deux attitudes différentes là. Que le bon samaritain faisait preuve, dit le texte, de miséricorde et non d'amour, et que le blessé était l'image de l'amour. La miséricorde, c'est la bonne œuvre, l'amour, c'est autre chose. Mais en fait, je pense que les deux, ce sont deux aspects de la même chose, c'est-à-dire de l'amour. Parce que dans l'amour, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité. L'amour, c'est une relation, relation entre deux personnes, et donc nécessairement, l'amour va dans les deux sens. Aimer, c'est donner et c'est recevoir. Aimer, c'est aller vers l'autre et c'est laisser l'autre venir à moi, même s'il empiète un peu dans mon territoire. Si l'amour n'est pas à double sens, ce n'est plus de l'amour. C'est qu'il y a un problème dans cet amour. Aimer, c'est aider et accepter de se faire aider. Aimer, c'est sauver et accepter de se laisser sauver par l'autre. Aimer, c'est agir, mais c'est aussi écouter. C'est aussi accueillir, c'est aussi laisser faire, c'est aussi laisser l'autre être. Et ce respect de l'autre en tant que sujet, en tant qu'autre, en tant que différent de moi, est à mon avis la clé même fondamentale de l'amour. Et en effet, il n'y a pas de Aimer l'autre, ce n'est pas le phagocyter, ce n'est pas l'enfermer dans mes idées, ce n'est pas l'écraser, mais c'est le laisser être. C'est pourquoi dans nos églises, on a toujours présenté la cérémonie de mariage, le mariage, comme étant quelque chose qui est fondamentalement lié à l'amour. Alors c'est lié à l'amour, mais pas simplement à l'amour passion, je t'aime moi aussi, Roméo et Juliette. C'est justement cet autre amour qui est ce qui devrait être dans tout mariage et ce que nous évoquons au moment d'une cérémonie. Justement, l'union dans la diversité. Dans un mariage, il y a un homme et une femme. Les femmes ne sont pas des hommes et les hommes ne sont pas des femmes. Et c'est vrai que de vivre avec une femme, c'est très difficile. Je peux vous le dire, c'est de grandes joies et de grandes difficultés parce que les femmes ne sont pas câblées comme les hommes, comme on dit. Et donc, ce n'est pas simple. Mais justement, c'est là que se positionne la question de l'amour. Vivre avec son double, ce serait trop simple, finalement. Ce n'est pas ça de l'amour. L'amour, c'est justement d'accepter que l'autre soit différent, d'accepter une union sans confusion, sans fusion, mais une union qui est justement dans l'accueil de l'autre, dans le respect de l'autre, avec ses qualités, avec ses défauts. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qui est tout autre chose que l'amour de Roméo et Juliette. L'amour passion adolescent n'est pas de l'amour au sens biblique du terme. C'est de faire porter l'autre, plutôt de transformer l'autre en porte-manteau à fantasme. L'autre ressemble exactement à ce que j'aimerais qu'il soit. Ça, c'est de la chance. L'autre, finalement, me fait plaisir. Je l'aime parce que je suis content qu'il soit là. Ça, c'est de l'amour-passion, c'est de l'amour-sentiment, mais ce n'est pas de l'amour durable, je dirais, ni constructif. Et ça entraîne nécessairement des crises, parce qu'un jour ou l'autre, l'autre va me prouver qu'il n'est pas simplement ce que j'aimerais qu'il soit. Et à ce moment-là, on va enfin pouvoir comprendre ce que c'est que l'amour. Aimer l'autre, bien qu'il ne soit pas ce que j'aimerais qu'il soit. Aimer l'autre, peut-être justement parce qu'il n'est pas comme moi, accepter que l'autre soit différent, que l'autre ne soit ni une projection de moi, ni une projection de mon propre désir. Ça, c'est l'amour durable, l'accueil de l'autre comme sujet dans l'autonomie de l'autre, d'agir pour l'autre, de l'accueillir sans rien attendre de l'autre. Alors si le mariage est bien, en ce sens, une image de l'amour. C'est-à-dire, dans nos églises, on appelle ça un sacrement. Un sacrement dans l'église, c'est un signe visible de l'amour. Un geste qui montre d'une façon concrète et visible ce que c'est que la grâce et que l'amour. Dans nos églises réformées, le mariage n'est plus un sacrement, mais non pas qu'il soit contesté que ce soit un signe d'amour, mais parce que les réformateurs ont pensé que ce n'était pas assez universel, alors que la grâce de Dieu est universelle. Mais néanmoins, il n'a jamais été contesté que ce soit un sacrement dans le sens, je dirais, d'un signe d'amour. Et d'ailleurs, on dit bien aux jeunes couples que l'expérience de l'amour profond et fort qui mène au mariage apprend ce que c'est que l'amour et nous aide aussi à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Et ensuite, on dit aussi aux jeunes couples qui se marient, vous savez, si vous voulez comprendre vraiment ce que c'est que l'amour, bon, vous avez découvert l'amour en vous mariant, c'est très bien, mais vous saurez pleinement ce que c'est que l'amour quand vous aurez eu un enfant. Et là, on en arrive à un deuxième sacrement qui est le baptême. Et le baptême nous montre un autre aspect de l'amour. C'est qui complète le premier, je dirais. Cet autre aspect, c'est l'amour inconditionnel. Et le baptême est une chose étonnante. On dit, voilà, on prend ce petit bébé-là. On ne sait pas ce qu'il fera. On ne sait pas s'il sera gentil ou pas, s'il sera sympathique ou non, s'il fera des bonnes études ou pas, si ce sera quelqu'un de doux ou un emmerdeur. Mais de toute façon, par principe, je dis, je l'aime. Voilà. Par principe, Dieu dit, je l'aime. Et ça, les parents le comprennent, parce que les parents aiment leur enfant. Et là aussi, autre expérience vécue, on aime ses enfants. Ils peuvent vous contrarier, ils peuvent vous embêter, vous énerver, faire tout ce qu'il ne faut pas. De toute façon, les parents aiment leurs enfants, point. Et ils les aimeront jusqu'à leur mort. C'est quelque chose de total, d'inconditionnel, d'indestructible. Ça, c'est l'amour. Et cet amour, c'est une sorte de principe qui est surtout explicité par le choix des parrains-marraines. Les parrains-marraines arrivent, ils n'ont rien à faire de cet enfant qui n'est pas le leur, et ils disent « Je décide de l'aimer toute ma vie. » Point. C'est comme ça. Une sorte de principe de base. Et donc, il y a dans l'amour quelque chose de l'ordre du choix. Du choix absolu qui ne dépend de rien d'autre que de son propre choix. Une sorte de choix positif, je dirais, où on décide qu'on va s'ouvrir à l'autre, lui donner, l'accueillir, l'entendre et le recevoir. Aimer, c'est un principe de départ, une volonté de base, et de dire que de toute façon, cette personne qui est là, je la respecte, je l'accueille, et c'est finalement faire du don, faire de la grâce, faire d'un amour qui ne demande rien en retour et qui ne suppose rien. On ne dit pas « je l'aimerai si ». Non, c'est un amour, point. Un principe qui est le fondement, la base même de toute vie possible. C'est pourquoi il est merveilleux de baptiser les enfants bébés, de dire « cet amour inconditionnel, c'est la base fondamentale sur laquelle on pourra construire tout le reste. En dehors de ça, il n'y a rien de possible. » Ah, et puis tiens, on a déjà trouvé deux sacrements, le mariage et le baptême. Ça m'a donné envie de voir si on ne peut pas aller plus loin. Parce que finalement, ces sacrements qui sont des signes de l'amour, est-ce qu'ils ne nous apprendraient pas encore d'autres choses sur ce qu'est l'amour ? Alors continuons à les décliner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, la communion. La communion. Oui, certainement, je crois qu'il y a dans la communion, dans la Sainte Cène, quelque chose qui nous apprend sur l'amour. Parce que l'amour, c'est aussi quoi ? Bien, c'est du partage, c'est de la solidarité. L'amour, c'est aussi voir qu'on n'est pas tout seul dans son coin, mais qu'on est ensemble. L'amour, c'est faire des choses ensemble, c'est partager. Et là, on comprend bien avec cette dimension-là de l'amour qu'on peut aimer son ennemi. Parce que mon ennemi, s'il est là, s'il a faim, eh bien je lui donnerai à manger. Et mon ennemi, même celui qui m'est antipathique, s'il a besoin de quelque chose, je lui donnerai. S'il a froid, je lui donnerai mon manteau ou la moitié de mon manteau, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux partager. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ou alors, on peut aussi dire à l'inverse que la communion, ce n'est pas simplement une communion horizontale, c'est aussi par rapport à Dieu. Dans la communion, dans la Sainte Cène, c'est aussi accepter de recevoir de Dieu. Et ça, c'est le contraire du baptême. Dans le baptême, c'est l'amour où je donne tout. Là, dans la communion, c'est l'amour où c'est moi, l'enfant, qui ouvre le bec pour qu'on le nourrisse. C'est l'amour où je me dis, moi, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin que l'autre partage son pain. J'ai besoin que Dieu me donne. J'ai besoin qu'il me nourrisse et qu'il me console. En fait, c'est vrai qu'il est plus facile de donner que de recevoir. C'est beaucoup plus facile d'aimer un bébé qu'un adolescent. Le bébé, c'est très facile à aimer. C'est mignon, on lui donne à manger, on le caresse, etc. Il est content, tout va bien. Mais il ne dit pas son avis, donc ça, c'est bien agréable. Mais aimer un adulte, aimer quelqu'un de grand, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a quelqu'un en face. Et il y a aussi quelqu'un dont je dois accepter qu'il me donne, qu'il me reçoive, un vis-à-vis. Et je pense que cet amour où l'on accepte de recevoir et de rentrer en dialogue est finalement beaucoup plus proche du véritable amour. L'amour, je dirais, pour le bébé, est très beau, très doux, merveilleux, etc. Mais finalement, c'est pas le propre de l'homme. Les animaux, beaucoup d'animaux s'occupent très bien de leur bébé, ils sont très touchants avec leurs enfants et leurs petits, etc. L'amour qui est le propre de l'homme, l'amour vraiment évangélique, c'est justement, par-delà ça, un amour qui est beaucoup moins infantilisant et qui est beaucoup plus grand, je crois. Véritable amour, c'est lorsque l'on est capable de se reconnaître soi-même comme inférieur par rapport à l'autre. Et ça, ça n'est pas facile. Alors continuons. Ah, il y en a encore un. La confirmation. La confirmation, c'est un des sept sacrements de l'Église romaine, vous le savez. Et ça aussi, c'est un autre aspect de l'amour. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure avec Pia, qui est là. Parce qu'au moment de la confirmation, on s'adresse à la personne et on lui dit « Que veux-tu ?» On va, vous voyez, encore plus loin dans le respect de l'autre. Dans la confirmation, on laisse sa liberté à la personne. Et je crois que là, ça insiste sur un point fondamental, c'est que aimer, c'est ça aussi. C'est respecter l'autre dans ses choix. Ça n'est pas forcément aimer faire des choses pour lui, mais c'est lui dire « je t'écoute ». Et la confirmation, c'est ça. C'est « moi, j'aimerais beaucoup que tu sois chrétien, mais maintenant, je t'écoute. C'est toi qui décides. » C'est accueillir l'autre, lui permettre d'être adulte, lui permettre de dire « je » et lui permettre de ne pas se définir simplement par rapport à soi-même, mais en autonomie. C'est faire confiance et considérer l'autre effectivement comme un sujet. Ça aussi, c'est de l'amour. Et c'est une chose absolument essentielle. C'est de l'amour qui fait grandir, de l'amour qui rend adulte. Après, il y en a encore d'autres. Il y a un autre sacrement qui est l'annonce de la grâce. Ça s'appelait autrefois la pénitence, je crois. Maintenant, le sacrement de réconciliation. Bon, là, c'est simple. Vous voyez tout de suite, ça, c'est pas très compliqué. Oui, bien sûr, l'amour, c'est du pardon. Voilà. Le pardon fait partie de l'amour. Et il n'y a pas d'amour possible sans pardon. Parce que nous sommes tous pécheurs et que, dans le fond, nous n'arrêtons pas de blesser nos semblables et nous n'arrêtons pas de faire du mal à ceux que nous aimons, involontairement et même parfois volontairement, parce que notre volonté aussi est pécheresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, l'annonce de la grâce est un sacrement fondamental. C'est un signe d'amour, c'est quelque chose qui est fondamental et, je dirais, inséparable de la question de l'amour. Je pardonne et je sais aussi que moi, je ne suis pas parfait et que j'ai besoin d'être pardonné. Alors, il en reste encore deux. Sur les deux derniers, j'ai eu du mal à essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme signe d'amour là-dedans. Il y a la consécration ou l'ordination des prêtres ou des pasteurs. Luther considérait que c'était une chose essentielle, voulait à tout prix que ce soit un sacrement. Et là, c'est plus difficile. En quoi est-ce qu'il y a là un signe d'amour dans le fait que quelqu'un soit consacré pasteur ou ordiné prêtre? Eh bien, je crois que c'est un signe de l'amour de Dieu, parce que dans cette situation, on voit qu'il permet à certains de le servir, bien qu'il soit imparfait. Et je considère que moi, c'est finalement un signe d'amour de la part de Dieu et aussi de votre part, que vous acceptiez que je sois votre pasteur ou que je sois le ministre du Saint-Évangile, parce que dans le fond, je ne le mérite pas. Mais voilà, Dieu dit, écoute, bon, je sais que tu n'es pas parfait, mais j'ai besoin de toi et il faut que tu agisses pour moi. Et donc, il y a dans l'amour cette dimension de la confiance, de laisser l'autre agir même si on sait qu'il n'est pas parfait, et de dire à l'autre, j'ai besoin que tu agisses pour moi, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire, c'est de donner un rôle, une responsabilité, de faire confiance. Et quand nous disons que Dieu nous aime, ce n'est pas simplement pour dire qu'il nous donne mille choses et que sa tendresse est merveilleuse, mais c'est aussi parce que Dieu nous dit, toi là, j'ai besoin de toi. Mais tu dis, mais Seigneur, moi je suis rien, je suis pécheur, je suis petit, je suis faible. Mais oui, dit Dieu, mais moi je t'aime, donc j'ai confiance en toi. Et je sais que même si tu es imparfait, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu peux y arriver, vas-y, mais je vais tomber Seigneur, c'est pas grave, avec moi tu vas y arriver. Et ça c'est une dimension fondamentale de l'amour, un amour qui fait confiance, et encore une fois, voyez-vous, ce n'est pas un amour qui enferme ou qui emprisonne, mais c'est un amour qui fait grandir, un amour qui met en mouvement et qui met en marche. Et puis le dernier sacrement qui n'existe pas chez nous, et pourtant qui est important, c'est ce qu'on appelait l'extrême onction. Ah, ça c'est intéressant. Au moment où quelqu'un va mourir, on fait venir un prêtre qui dit, qui met un peu d'huile sur le front, je crois, et qui dit en gros, Dieu t'accueille, tu seras sauvé, Dieu te reçoit dans son paradis. Signe dit au moment de la mort, et qui dit quoi? Qui dit en fait, toute la vie est acceptée, toute ta vie est acceptée. Alors vous me direz, c'est la même chose qu'au moment du baptême? Mais non, c'est le contraire. Au moment du baptême, il y a un a priori en disant « Allez, j'accepte par avance ce que tu vas faire ». Au moment de la mort, c'est passionnant, parce qu'il y a là une parole d'amour, Dieu qui dit « J'accepte et j'assume ta vie, mais avec tout ce que je vois ». Donc ce coup-ci, j'aurai de nombreuses raisons de ne pas l'aimer. Et je regarde, tiens, il y a ceci, il y a cela, je vois tout dérouler, les défauts, les qualités, le bien, le mal, les bonnes œuvres et les crimes, et je dis « J'assume tout, j'accepte et j'aime ». Alors là, ça c'est formidable. Et en plus, c'est encore plus de l'amour que beaucoup d'autres choses, parce que quand je pardonne à mon frère, je me dis « bon, je lui pardonne, mais j'espère qu'il fera mieux la prochaine fois ». Quand j'aime un enfant, je me dis « j'espère quand même qu'il sera bien ». Quand j'aime, je peux me dire « il va changer, il va se perfectionner, il va se convertir, il va devenir bon ». Mais au moment où la personne meurt, il n'y a rien à attendre. Cette personne, elle est comme ça, je n'attends plus qu'elle change, je n'attends pas qu'elle se rachète, je n'attends pas qu'elle paye quoi que ce soit. Maintenant, les jeux sont faits, c'est comme ça. Je n'ai rien à attendre, rien à espérer de changement, de modification, de demande de quoi que ce soit. La personne est là et sans rien attendre, je dis « j'accepte et j'assume ». Et ça aussi, c'est un amour formidable. Et ça aussi, c'est, sans attendre la mort, j'espère, l'ultime, l'étape ultime de l'amour, même dans la relation conjugale, de voir l'autre et de dire enfin « eh bien voilà, je ne vais pas chercher à le ou à la changer, il est comme ça, elle est comme ça, je dis oui et amen, j'accepte et j'aime ». Ça, c'est l'amour ultime. Et je trouve que ce geste, cette extrême onction est magnifique. C'est dommage que Vatican II l'ait transformé en sacrement des malades. Alors, qu'est-ce que très bien, les malades ont pris pour eux. Mais là, l'extrême onction n'a pour moi n'a de sens comme sacrement que si c'est l'extrême onction. Et ça, c'est quelque chose de formidable, je crois. Alors vous me direz, ça fait un sacré programme. C'est pas facile d'aimer, d'accepter, de pardonner, de responsabiliser, d'accueillir, de tout donner par grâce, de se laisser soi-même transformer, de faire confiance. Ouf, c'est difficile. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui nous donne l'exemple, c'est Dieu. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous pardonne, Dieu qui nous responsabilise. Et nous pouvons non seulement nous réjouir que Dieu nous aime, mais nous pouvons aussi faire en sorte que tous ces dons que Dieu nous donne et que nous rappelons sans arrêt dans les sacrements et les différents rites de l'Église, que tous ces dons puissent rejaillir le plus possible sur les autres. L'amour, je vous disais, c'est quelque chose à double sens. Je ne dois pas sans arrêt me dire « il faut que j'aime, il faut que j'aime, il faut que j'aime ». L'amour, c'est une nature. L'amour, c'est un feu jaillissant. L'amour, c'est une source débordante. Et donc, pour aimer, il faut être aimé. Pour pouvoir pardonner, il faut se sentir pardonné. Pour pouvoir être donné du bonheur, il faut être heureux. C'est pourquoi il est fondamental que dans notre vie spirituelle, c'est peut-être ça la seule chose qu'on nous demande. Remplissez-vous de l'amour de Dieu. Sentez-vous aimé, sentez-vous responsabilisé, sentez-vous pardonné, sentez-vous libéré, sentez-vous rempli de dons, de grâce, d'espérance, de lumière, de joie, de bonté, pour que votre vie soit bourrée de toutes ces choses et que ça rejaillisse. Pour nous, nous dit l'apôtre Jean, nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Le premier. Amen.